si vous voulez bien, je commence. Tout d'abord, j'ai noté ici le dernier séminaire donc, de cette année, qui est donné tout à l'heure en heure par Franck Laloé sur le sujet suivant, au-delà de la théorie du champ moyen, un mécanisme pour la superfluidité dans les gaz. Je rappelle maintenant très brièvement les résultats essentiels obtenus dans le cours précédent. Je vous rappelle qu'on a étudié des problèmes dépendants du temps et que j'ai commencé donc la séance par démontrer une généralisation de l'équation de Gross-Pitaïsky qui donne l'état fondamental d'un condensat à des problèmes dépendants du temps, par exemple lorsque le potentiel extérieur qui piège les atomes est modulé au cours du temps. Et je vous ai montré que l'équation de Gross-Pitaïsky était généralisable sous cette forme, où G donc, est la constante 4pH bar 2 sur m petit a. Si j'ai du temps à la fin de la séance, je reviendrai sur un point délicat de cette démonstration pour montrer qu'il est important de la méthode variationnelle mais doit être appliquée avec des potentiels qui peuvent être traités par l'approximation de Bohr. Puis, cette équation en général difficile à résoudre dans le cas général, si on suppose des excitations faibles, c'est-à-dire si on suppose que le potentiel est modulé ou changé très légèrement à partir d'une valeur V0 de R fixe, il a été possible de linéariser l'équation de Gross-Pitaïsky et de montrer que les fréquences propres de vibration, qui sont réelles lorsqu'on considère des déviations faibles par rapport à l'état fondamental d'un condensat dans un phase harmonique, les fréquences de vibration dans le régime linéaire étaient données par cette équation valeur propre, LGP UV égale H bar oméga UV, où UV est un vecteur à deux composantes et où LGP est un opérateur, une matrice 2 par 2 qui est donnée par cette équation, où H0 est moins H bar 2 sur 2m laplacien plus V0 de R, le potentiel statique, mu le potentiel chimique, et phi 0 la fonction d'onde de l'état fondamental à l'équilibre. J'ai également étudié une autre limite, la limite des hautes densités, lorsque pour un condensat piégé, le paramètre Na sur sigma est beaucoup plus grand que 1. Je vous rappelle que N est le nombre d'atomes piégés à la longueur de diffusion et sigma l'extension de la fonction d'onde de l'état fondamental. Quand ce paramètre est très grand devant 1 pour un condensat piégé ou quand la longueur d'onde des excitations est grande devant la longueur de relaxation ou encore la longueur de cohérence, il est possible de remplacer les équations, l'équation de Gross-Pitaïsky dépendant du temps par deux équations hydrodynamiques obtenues en écrivant, en séparant dans phi le module qui est la racine carrée de la densité spatiale, ρ de R et de T. Je suppose ici que phi est normalisé à produit scalaire de phi par lui-même égale n, n le nombre de particules, et puissance IF de R et de T où F est une phase. Et en posant V de R et de T égale H bar sur M, gradient de la phase, on a été capable, moyennant une approximation qui est la généralisation au problème dépendant du temps de l'approximation de Thomas-Fermi dans le cas d'équilibre, approximation qui consiste à négliger un terme de pression quantique, d'obtenir deux équations qui ont une interprétation physique transparente, d rho sur dt plus divergence rho v égale 0, équation de continuité qui exprime la conservation des particules, mdv sur dt égale moins gradient de 1/2 de mv2 plus v extérieur plus g rho, équation qui ressemble à l'équation de l'air de l'hydrodynamique et qui peut être transformée en équation de la dynamique écrivant que mdv sur dt, l'accélération d'une particule égale la force, la somme des forces agissant sur elle. À ce sujet, je voudrais préciser un point que je n'ai omis de préciser la semaine dernière. Pour transformer cette équation, j'ai utilisé à un moment donné le fait que cette équation permettait d'écrire rotationnel de V égale 0. Ceci, évidemment, n'est valable qu'en l'absence de tourbillon, qu'on appelle des vortex. En effet, quand il y a un vortex, la circulation de la vitesse autour de la ligne de vortex n'est pas nulle, et le rotationnel de V n'est pas nul partout. Il n'est pas nul en particulier sur l'axe du vortex. Donc, il faut faire attention. En présence de vortex, disons, les équations doivent être maniées avec un peu plus de précaution, mais je n'aborde pas ce problème cette année. Ce sera certainement l'objet d'un cours suivant. Voilà, et j'ai enfin, la semaine dernière, j'ai enfin montré qu'il était possible de linéariser ces deux équations à la limite des faibles excitations, et j'y reviendrai dans un petit moment. Aujourd'hui, je voudrais appliquer ces résultats généraux à l'étude de la dynamique d'un condensat piégé. Et je suppose toujours que je suis à très basse température, c'est-à-dire qu'on peut négliger la fraction d'atomes qui ne sont pas condensés et qui pourraient introduire des collisions avec les atomes condensés, donc je suppose que j'ai un condensat pur. Et avant de décrire des expériences, je voudrais d'abord terminer un petit peu le cours de la semaine précédente en montrant que il est possible, dans le régime des hautes densités et dans le cas de pièges harmoniques, il est possible de remplacer ces équations dérivées partielles couplées par des équations différentielles. Et ils sont plus commodes à utiliser et à manipuler que les équations dérivées partielles de l'hydrodynamique. Il s'agit ici d'une approche qui a été initiée par Ivan Kastin, également par des chercheurs russes. Je vais donc faire un petit complément au cours précédent. Et considérez donc le cas d'un piège harmonique à la ligne des hautes densités, à la limite donc où ces équations sont valables. Et je vais vous montrer que les équations hydrodynamiques sont équivalentes à des équations différentielles. Ce sont en fait les équations différentielles que j'utiliserai ensuite pour décrire un certain nombre d'expériences. Donc, je suppose que V extérieur de R est harmonique, avec trois fréquences de vibration différentes le long des trois axes, oméga x, oméga y, oméga z. Et je suppose que ce potentiel extérieur ne dépend du temps que par l'intermédiaire des fréquences propres, oméga i de t. Et un exemple de problème qu'on peut aborder par cette méthode, c'est ce qu'on appelle l'expansion balistique. Quand les fréquences propres du piège sont restées constantes suffisamment longtemps pour que le système atteigne un état d'équilibre, et puis que brusquement, à l'instant t égale 0, on coupe le piège. Et on regarde comment le condensat va gonfler et exploser dans l'espace. Alors, d'abord, j'ai supposé que le piège était dense, c'est-à-dire que dans l'état d'équilibre, avant la coupure du piège, ou avant qu'on commence à faire bouger les fréquences de vibration propres du piège, le système est en état d'équilibre, et nous connaissons l'état d'équilibre à haute densité, il est donné par l'approximation de Thomas Fermi, et à ce moment-là, le potentiel est indépendant du temps, et ρ0, la densité d'équilibre, est donnée par 1 sur g mu moins v extérieur de r, dans toutes les régions d'espace où cette quantité est positive, nul ailleurs, et ceci est donc égal à mu sur g moins m sur 2g, sigma sur i de x, y, z, de oméga 0i carré, ri carré, oméga 0i, c'est donc la valeur constante des fréquences propres du piège avant qu'on le coupe, ou avant qu'on le fasse bouger. Et puis à partir de t égale 0, oméga i de t peut devenir une fonction a priori quelconque du temps. Bien, ce qu'on va démontrer maintenant, c'est que la solution de ces deux équations couplées est tout simplement une dilatation, c'est-à-dire que la position Ri c'est soit x, soit y, soit z, hein, donc x de t, y de t, z de t, se déduisent de x de 0, y de 0, z de 0 par une simple dilatation, bx de t, by de t, bz de t. Et le problème, c'est quelle est l'équation satisfaite par VI de T. Donc, on a remplacé le problème par un problème purement dépendant du temps. C'est une simple dilatation. Les coordonnées sont dilatées par un facteur VI de T le long de l'axe X, BY de T le long de l'axe Y, BZ de T le long de l'axe Z. Quelle est l'équation qui donne l'évolution temporelle de ces fonctions VI de T? Alors, pour cela, supposons que c'est vrai. Supposons que cette propriété soit vraie. Alors, une particule qui se trouve au point Ri, à l'instant t, était à l'instant t égale 0, a une position qui est simplement Ri divisé par Bi de t. X divisé par Bx de t, Y divisé par Bx de t, Z divisé par Bz de t. Donc, si j'ai une simple dilatation, une particule qui est ici en ce point, je sais d'où elle est partie. Et la densité que je vais obtenir au point R, à l'instant T, est reliée bien sûr à la densité au point de départ. Comme je passe du point de départ au point d'arrivée par une dilatation avec des facteurs différents, Bx, Bx, Bz, le long des trois axes, la densité est diminuée simplement par le facteur de dilatation, bx de t, bx de t, bx de t. Donc la densité au point ri est égale à la densité au point ri divisé par bi de t, que multiplie le facteur de dilatation 1 sur bx, by, bz. Donc j'en déduis que ρ au point de l'espace ri à l'instant t, c'est 1 sur bx de t, by de t, bz de t, ρ0, la densité d'équilibre, au point de coordonnées ri divisé par bi de t. Si j'écris cette équation, automatiquement je conserve le nombre de particules, bien sûr. Puisque j'écris que toutes les particules qui sont dans un petit volume se retrouvent dans un volume qui est dilaté. Si je prends l'expression de ρ0 donnée tout à l'heure, c'est mu sur g qui multiplie ce facteur de dilatation, et comme ρ0 est une fonction quadratique, puisque le piège est harmonique, c'est sigma sur moins n sur 2g, sigma sur i, x, y, z, de oméga 0i carré, ri carré, ça c'est le ρ0, divisé par bx de t, bx de t, bz de t, ça c'est le facteur de dilatation. Il ne faut pas oublier de remplacer ri par ri sur bx de t, donc j'ai un bi carré de t supplémentaire au dénominateur. Donc j'ai cette relation qui me permet de calculer la densité en un point d'espace à un instant t donné quelconque, en fonction des paramètres du piège à l'équilibre et des facteurs de dilatation pour le moment inconnus. Remarque, comme le nombre total de particules est conservé, l'équation de continuité est automatiquement satisfaite. Deuxième point maintenant, quelle est la vitesse au point de coordonnées RI? Quel est le champ de vitesse? Plaçons-nous en un point R à l'instant T de l'espace et regardons une particule qui se trouve en ce point à cet instant. Cette particule est partie de R0 à T0 et j'ai bien sûr RI de 0 égale RI sur BI de T avec l'hypothèse de la dilatation. Donc j'ai RI égale RI0 BI de T, la seule dépendance dans le temps vient de BI de T, et la vitesse de la particule qui passe au point RI à l'instant T, c'est tout simplement B'I de T, RI0. Et si j'élimine RI0 par cette équation, c'est B'I de T sur BI de T, RI. Donc je calcule le champ de vitesse, je sais en chaque point RI quelle est la vitesse en ce point. C'est B'I de T sur BI de T, RI. Quelques relations dont j'aurais besoin tout à l'heure. Que vaut la dérivée partielle de la vitesse, du champ de vitesse au point R à l'instant T? C'est la dérivée par rapport à T partielle de cet objet-là. C'est donc B seconde I sur VI, moins B'I sur VI au carré, dérivée de ça, qui multiplie RI. Que vaut V2? V2, c'est la somme sur I de ceci en module au carré, RI carré. Donc c'est sigma sur I, B'I sur VI au carré, RI carré. Et que vaut gradient de 1/2 de MV2 qui apparaît ici, dans l'équation de l'air, ben c'est tout simplement le gradient de ceci, c'est m sigma sur i b'i sur bi au carré ri. Donc j'ai calculé ρ, j'ai calculé vi, la dérivée partielle de vi par rapport à t, le gradient de vi carré. Donc je peux maintenant vérifier, me poser la question, à quelle équation doit satisfaire bi de t pour que la deuxième équation d'hydrodynamique, md sur dt de vi égale moins d sur dri, de 1 demi de MV2 plus 1 demi V extérieur, c'est-à-dire 1 demi de M, sigma J oméga J carré R J carré plus J rho, soit satisfait. Alors calculons les termes les uns après les autres. M dVI sur DT, j'ai calculé précédemment, c'est M B second I sur BI moins B' sur BI au carré RI. Calculons maintenant D sur DRI de 1 demi de MV2, c'est ce que j'ai juste calculé tout à l'heure, c'est D sur DRI de 1 demi de M, B' sur BI au carré, B'J sur BJ au carré, RJ carré, dérivé par rapport à RI, c'est donc M, B' sur BI carré, RI. Vous voyez, c'est linéaire en RI, c'est linéaire en RI. Et c'est là que l'hypothèse du piège harmonique est importante. Le piège est harmonique, il reste harmonique au cours du temps, donc D sur DRI du potentiel extérieur, 1 demi de M sigma J de oméga J carré, RJ carré est égal à M oméga J carré RI. Et enfin, D sur G, D rho sur D RI, j'ai donné tout à l'heure l'expression de rho, c'est G moins M sur 2G, D sur D RI, sigma J de oméga 0 J carré RJ carré sur le facteur de dilatation BX, BY, BZ qui multiplie BJ carré. Et tout ceci, c'est tout simplement moins M oméga 0 I carré RI sur BX, BY, BZ, BI carré. Je remarque ici que ce qui apparaît ici, ce n'est pas oméga i de t, c'est oméga 0 i carré, parce que j'ai calculé la densité au point ri à l'instant t en fonction de la densité initiale, rho à l'instant 0, qui est une densité d'équilibre. Alors quand je remets toutes ces quantités dans l'équation, comme le piège est harmonique, Le RI qui est là se simplifie. Et j'obtiens tout simplement une équation différentielle que je vais réécrire ici, qui est P seconde I de T, plus oméga I carré de T, D de T, moins oméga 0 I carré, sur dx de t, dy de t, dz de t, dy de t égale 0. Alors ça, ce sont des équations différentielles du deuxième ordre. Elles ne sont pas linéaires, puisqu'il y a ici des termes, ou ce moment, ce n'est pas uniquement des termes en bi, c'est des termes également en 1 sur dx, dy, dz, bi. Et elles dépendent de la dépendance temporelle du piège après t égale 0 par l'intermédiaire des oméga i de t carré qui sont ici. Voilà donc cette première méthode que j'ai établie. Et première application, je dirais qu'on va étudier maintenant ce que c'est que l'expansion balistique. Je vais supposer que j'ai affaire initialement à un piège à symétrie cylindrique, une sorte de cigare allongé, avec une petite fréquence de vibration, une fréquence élevée de vibration radiale dans cette direction. Je ne le mettais pas vertical parce qu'il faut compenser la gravité. Le piège cylindrique doit être horizontal pour que la constante de raideur la plus importante compense la gravité. Donc il y a, je prends l'axe Z comme ça, il y a oméga 0Z, la fréquence de vibration le long de l'axe long du cigare, est beaucoup plus petite que la fréquence de vibration dans le plan perpendiculaire à l'axe Z. Et coupure balistique, ça veut dire qu'à l'instant t égale 0, oméga i de t égale 0 pour x, y, z. C'est-à-dire que ce terme, pour t positif, ce terme s'en va. Alors, si j'écris l'équation pour perpendiculaire, j'aurai ici b secondes perpendiculaires de t. Et ici, j'en ai deux qui sont x et y qui sont perpendiculaires, donc un oméga, un b perpendiculaire de t au carré, un troisième ici, puisque je m'intéresse à b perpendiculaire de t au cube, qui multiplie bz de c. Puisqu'en effet, si j'ai le problème à la symétrie cylindrique, j'aurai bx égale by égale b perpendiculaire. Donc, j'ai l'équation d2 sur dt2 de b perpendiculaire de t égale oméga 0 perpendiculaire sur b cube t bz t, et d2 bz sur dt2, alors là, j'aurai un z ici, et un z ici, et deux perpendiculaires ici, donc j'aurai b perpendiculaire de t au carré, bz perpendiculaire de t au carré, ici ça sera un z, et j'aurai donc b2 bz sur dt2 égale oméga 0 z carré sur b perpendiculaire de t, bz carré de t. On change de variable pour prendre une variable sans dimension qui est t tau égale oméga 0 t, qui est en fonction de... Oh, je m'excuse, il manque un perpendiculaire ici, oméga 0 perpendiculaire de t. Lambda, lui, c'est oméga 0 z sur 0, oméga 0 perpendiculaire, qui vous est très petit devant 1, et les deux équations deviennent maintenant les équations suivantes, d2b perpendiculaire sur dto2 égale 1 sur b perpendiculaire sur bz, et une équation analogue pour bz. Alors, si on suppose que lambda est très très petit devant l'unité, si le cigare est très très allongé, on peut résoudre ce système de deux équations couplées sous forme d'un développement puissance de lambda. Alors 0 à lambda, on peut remplacer bz par 1, puisque bz ne change pas. Et la solution de d2 perpendiculaire sur d taux 2 égale 1 sur b perpendiculaire cube de taux, c'est tout simplement racine de 1 plus taux 2. Et en remplaçant cette valeur de b perpendiculaire ici, on obtient à l'ordre 2 inclus en lambda, bz de taux égale 1 plus lambda 2, taux arctangent taux, moins logarithme de 1 plus taux 2. Et on pourrait étudier les termes suivants. Cette solution a été donnée dans la référence 2, l'article de Yvan Castin et de Ralph Do. Voilà, on sait donc comment, au cours du temps, varie B perpendiculaire de taux et BZ de taux. À ce moment-là, on peut calculer l'évolution au cours du temps du rapport d'anisotropie du système. Et de ça, on pourrait... C'est un rapport d'anisotropie. Donc, avant la coupure du piège, l'approximation de temps de la Fermi donne cette valeur et la densité s'annule le long d'un axe perpendiculaire au point R perpendiculaire, le long de l'axe Z au point Z, avec RZ perpendiculaire et RZ donné par les zéros de cette équation, on en déduit que le rapport d'anisotropie, c'est R perpendiculaire sur RZ, c'est oméga 0Z sur oméga 0 perpendiculaire, c'est ce que j'appelais tout à l'heure lambda, c'est-à-dire que le piège est beaucoup plus petit transversalement que longitudinalement. Et après coupure du piège, tout simplement, comme il y a une dilatation avec un facteur différent des perpendiculaires et des aides le long des deux axes, le rapport d'anisotropie est tout simplement donné par R perpendiculaire sur RZ de B perpendiculaire de taux sur BZ de taux. En remplaçant ceci par lambda et puis B perpendiculaire sur BZ par la valeur trouvée, on obtient une formule analytique valable pour lambda petit, donnant comment varie le rapport d'anisotropie en fonction du temps. Temps mesuré en période de vibration le long de l'axe rapide, le long de la direction radiale. Alors, je rappelle que ceci tient compte des interactions. Ceci tient compte du fait qu'à haute densité, l'explosion du condensat était essentiellement déterminée par les interactions. On pourrait aussi supposer l'autre cas limite où la densité est extrêmement faible et où, par conséquent, l'expansion balistique du piège, du condensat, est simplement due à la dispersion des vitesses dans la fonction d'onde non perturbée de l'oscillateur harmonique dans l'état fondamental. Et à ce moment-là, on obtiendrait également une certaine évolution du rapport d'anisotropie en fonction du temps. Alors, je crois qu'à ce niveau, je peux donner quelques vérifications expérimentales qui constituent donc une vérification de l'équation de Gross-Pitaïsky dépendant du temps. J'ai extrait de la référence 1, qui est, je crois, l'article de revue de l'équipe de Stringari. Deux courbes expérimentales, l'une obtenue à constance sur des atomes de rubidium et l'autre obtenue à MID sur des atomes de sodium, à la limite donc des hautes densités. Ces deux courbes montrent l'évolution du rapport d'anisotropie avec le temps. Vous voyez que le rapport d'anisotropie part d'une valeur beaucoup plus petite que 1, le condensé à la forme d'un cigare allongé, et ce rapport d'anisotropie croît au cours du temps pour prendre des valeurs plus grandes que 1. Autrement dit, comme vous avez mentionné l'an dernier, je crois que c'était dans la dernière séance, le rapport d'anisotropie change. On passe d'un cigare allongé dans cette direction à quelque chose qui est allongé dans la direction perpendiculaire. Les points sont les points expérimentaux. La courbe entrée plein est la solution numérique de cette équation, sans aucun paramètre, puisqu'on a pu mesurer oméga 0 perpendiculaire. C'est la solution numérique de cette équation. Et la courbe entrée pointillée que vous devinez à peine ici, là, en haut, c'est la solution analytique sous forme d'un développement puissance de lambda. C'est la formule analytique que je donnais précédemment. Et enfin, la courbe entrée interrompue ici, c'est la courbe qu'on obtiendrait en prenant un condensat et en étudiant son expansion balistique, simplement, sans interaction, simplement en prenant la dispersion des vitesses dans l'état fondamental de l'oscillateur harmonique. Vous voyez qu'à ce moment-là, on part à l'instant initial de rapport d'anisotropie qui est moins petit que l'autre. J'avais déjà mentionné que les interactions augmentaient le rapport d'anisotropie, ou le diminuaient, ça dépend dans quel sens on prend. Et vous voyez que, voilà ce qu'on obtient ici, il y a une différence très claire montrant que l'expansion balistique de ces condensats est essentiellement déterminée par les interactions. On ne pourrait pas la comprendre si on regardait uniquement une expansion balistique due à la dispersion des vitesses. L'autre courbe que je donne ici, c'est une courbe qui est obtenue à Paris, par David Guéry-Audelin dans sa thèse de doctorat qui a été soutenue il y a quelques semaines sur des atomes de rubidium. Alors je m'excuse ici Alain, ça peut changer. Le rapport d'anisotropie en fonction du temps normalisé, là aussi on voit que le rapport d'anisotropie passe d'une valeur très très petite devant 1 à une valeur grande devant 1. Là aussi les points sont expérimentaux, la courbe est théorique sans aucun ajustement et là c'est la courbe obtenu à partir de la formule analytique que j'ai donnée tout à l'heure. Et en plus ici, vous avez des figures du condensat obtenues à ces différents instants et montrant très clairement comment le condensat passe d'une forme allongée le long de cet axe à une forme allongée le long de cet axe. On voit très bien la variation du rapport d'anisotropie qui passe d'une valeur plus petite que 1 à une valeur plus grande que 1. Autrement dit, on peut considérer que ces équations constituent donc un test très précis de l'équation de Gross-Pitaïsky dont ils sont dérivés. J'aborde maintenant un autre point qui sont maintenant pendant 3, les modes propres de vibration. Alors, Ici, l'expérience est réalisée d'une manière un peu différente. Voici ici la variation temporelle des fréquences propres du piège. Pour T négatif, on laisse oméga 0J constant de manière à atteindre un état d'équilibre à T égale 0. Puis à T égale 0, on modifie très légèrement les fréquences de vibration. Pourquoi très légèrement? C'est si on veut étudier le régime linéaire, le régime d'état d'excitation. Donc on change d'état d'équilibre et puis on revient brusquement à T égale T1, à la valeur précédente, oméga 0J. Donc le système a été écarté de son état d'équilibre. On le change brusquement, il va se mettre à osciller avec ses fréquences propres de vibration. Et puis, on le laisse osciller pendant un certain temps, T2 moins T1. Et puis, à l'instant T2, on coupe le piège, on laisse le condensat grossir et on fait une image du condensat. Et en recommençant l'expérience pour diverses valeurs de T1 moins T2 moins T1, on peut étudier comment le condensat oscille entre T1 et T2. Alors ça, c'est toute une série d'expériences qui ont été faites. Qui sont destructives. Il y a également à MIT des expériences qui ont été faites avec une image dispersive du piège où on peut, en regardant la diffusion vers l'avant, négliger les transferts d'impulsion aux atomes et laisser le condensat osciller librement tout en l'observant. Et à ce moment-là, on peut regarder comment le condensat oscille au cours du temps en une seule mesure, en prenant une série de photographies. Voilà donc le principe de l'expérience. Et je voudrais donner maintenant quelles sont les méthodes qu'on peut suivre pour résoudre un tel problème. Alors, bien sûr, il y a d'abord la résolution numérique. Résolution numérique de l'équation de Gross-Pitaevsky linéarisée. Et ces équations sont valables si l'excitation est faible. Elles sont valables que l'on soit à faible densité ou à forte densité. D'accord? C'est une valable quelle que soit la densité. À très faible densité, on sait très bien ce qu'on va trouver. On va trouver la fréquence de les fréquences de vibration de particules dans un piège harmonique. J'y reviendrai dans un petit moment. Et puis à très forte densité, on va trouver les résultats qu'on pourrait déduire des équations électrodynamiques qui sont écrites en dessous ou de ces équations différentielles couplées qui sont écrites ici. Donc, première méthode, c'est résolution numérique, et là, il y a toute une série d'auteurs qui ont travaillé là-dessus. J'en ai donné un très grand nombre de références, qui partent de la référence de Ruprecht, Edwards, Burnett, Clark, le groupe anglais, puis Sink, Rockstar, Estrie, Hutchison, Varanda, Hugh, Austin, Levenstein, et puis le groupe de Stringari. Il y a donc toute une série de gens qui ont résolu numériquement ces équations, et les résultats sont très importants pour comprendre ce qui se passe quand on passe des faibles densités aux fortes densités. Alors, à haute densité, soit on utilise les équations hydrodynamiques, linéarisées, qui sont plus simples à étudier que celles-là, et je vous rappelle que la semaine dernière, c'était la dernière formule du cours que j'ai utilisée la semaine dernière. J'ai linéarisé ces deux équations par rapport à la solution d'ordre 0 quand ρ égale ρ0 et V égale 0. Et ce que j'ai obtenu, je vais arrêter sur le tableau parce que j'en aurai besoin tout à l'heure, j'ai obtenu une équation qui est D2 sur DT2, delta ρ de R et de T, égale G sur R, divergence de ρ0 de R, gradient de delta ρ de R et de T. Ça, c'est une équation dérivée partielle, linéaire, du deuxième ordre, et donc, si je remplace ici 0 par puissance i oméga t, je vais avoir le moins oméga 2, et la recherche des valeurs propres de cette équation aux dérivées partielles va me donner les fréquences propres de vibration. Alors ça, c'est une méthode qui a été en particulier particulièrement développé par le groupe de Stringari, et enfin, il y a les équations différentielles, décrivant une dilatation du condensat. Alors, je vais, si vous voulez bien, prendre plutôt la méthode des équations différentielles, qui est relativement simple, qui permet d'exposer les calculs au tableau. Alors, qu'est-ce qui se passe? On sort le système de l'état d'équilibre, et après, on coupe, on revient à oméga i de t égale oméga i 0. Donc, dans ces équations, à partir de t positif, je remplace oméga i de t par oméga i 0 carré. Et j'ai trois équations couplées que j'ai réécrites ici, qui est v seconde x plus oméga 0 perpendiculaire bx moins oméga 0 carré sur bx carré by bz égale 0. La même chose pour by, à part qu'il faut maintenant mettre le carré sur by. Et pour bz, la même chose, il faut mettre le carré sur bz carré, il faut remplacer oméga 0 perpendiculaire par oméga 0 z. J'ai un piège anisotrope, oméga 0 z d'une part, oméga 0 x égale oméga 0 y égale oméga 0 perpendiculaire. Voilà ces trois équations. Si je me limite à des excitations faibles, à ce moment-là, bx, by, bz vont être très peu différents de 1, je peux écrire bx, bi égale 1 plus delta bi, remplacer dans toutes ces équations bx par 1 plus delta bi, bx, bi par 1 plus delta bi, développer et ne garder que les termes linéaires en delta bi. C'est-à-dire qu'on linéarise ces équations non linéaires. Et à ce moment-là, on obtient un système de trois équations différentielles linéaires, delta b seconde x, delta b seconde y, delta b seconde y, avec des termes qui vont être proportionnels à oméga 0 perpendiculaire. Et vous voyez qu'il y en a un qui est égal à 3, c'est que quand je développe ici le 1 sur bx, 1 plus 2bx au carré, quand je développe l'unité, ça va me faire 1 moins 2bx, oméga 0 perpendiculaire, plus oméga 0 perpendiculaire ici, ça va me donner un 3. Je vais donc avoir un 3 ici, un 3 ici, un 3 ici. J'ai donc ici un système de trois équations différentielles linéaires. Et si vous le regardez, vous voyez tout de suite qu'il y a un mode qui apparaît tout de suite, un vecteur propre et une valeur propre qui apparaît tout de suite. Si je prends delta bz égale 0, c'est-à-dire si le condensat ne bouge pas le long de l'axe z, mais bouge uniquement le long de l'axe xy, et si je prends delta bx égale moins delta by, delta bx égale moins delta by, d'abord j'ai oublié, je m'excuse, il faut que je remplace delta b seconde par moins oméga 2, si je cherche une solution, je vais un peu trop vite là, si je cherche une solution de fréquence propre oméga, je remplace les delta b seconde par moins oméga 2 bi, le même oméga pour les trois, hein, bien sûr, et j'obtiens un système d'équations maintenant des quotients algébriques. Et effectivement, si je prends delta bz égale 0, et si je prends delta bx égale moins delta by, c'est-à-dire si je prends les modes 1, moins 1, 0, alors qu'est-ce qu'un mode 1, moins 1, 0 le long de l'axe z, ça ne bouge pas, mais le long de l'axe y, j'ai initialement un cercle, ça devient une ellipse, c'est-à-dire ça diminue sur x, ça augmente sur y, et puis ça fait ça, ça rediminue sur y, ça augmente sur bx. C'est donc un mode qu'on pourrait appeler un mode quadripolaire. D'accord ? Dans le plan radial, je passe d'un cercle à une ellipse dont l'ellipticité passe de plus grand qu'un à plus petit qu'un. Effectivement, si je fais ça, si j'en fais delta bx bar moins delta by, je vais avoir 3 oméga 0 carré perpendiculaire moins oméga 2 oméga 0 perpendiculaire carré moins oméga 2 égale 0. Donc la fréquence propre de ce mode, c'est oméga 2 égale 2 oméga 0 perpendiculaire au carré, c'est-à-dire oméga égale oméga 0 perpendiculaire racine de 2. Ça, c'est un mode qu'on est dans un piège à symétrie cylindrique. N n'est plus un bon nombre quantique, mais par contre, M est un bon nombre quantique. Et c'est un mode M égale 2, c'est un mode quadripolaire. Alors, pour rechercher les autres vecteurs propres, vont être orthogonaux à celui-là. Donc, ils vont être avec delta bx égale delta by égale delta b perpendiculaire, et puis delta bz différent de 0. Ça, j'obtiens tous les vecteurs orthogonaux à cela. Quand j'utilise ces équations là-dedans, j'obtiens deux équations à deux inconnues, 4 oméga 0 perpendiculaire au carré moins oméga 2 delta b perpendiculaire plus oméga 0 perpendiculaire delta bz égale 0, et une autre équation qui relie delta b perpendiculaire à delta bz. Alors, l'équation valeur propre correspond à son petit en annulant le déterminant de ce système d'équations algébriques. J'obtiens ces équations-là. Et j'obtiens donc deux racines, l'équation du second degré pour oméga 2, deux racines qui sont oméga 2 égale 1/2, 3 oméga z carré plus 4 oméga perpendiculaire carré, plus ou moins racine de 9 oméga z puissance 4 plus 16 oméga perpendiculaire puissance 4 moins 16 oméga z carré oméga perpendiculaire carré. Alors maintenant, c'est le moment de faire la comparaison avec les expériences. J'ai donc des formules analytiques donnant les fréquences propres de vibration. Et on va commencer à comparer ça aux expériences de Gila, qui dit en 96, c'est je crois la référence 16 ou 15. la référence saine. Alors, l'équipe de Gillen, Cornell, Weyman et autres, utilise un piège stop. Et dans un piège stop, le piège n'a pas la forme d'un cigare, il a la forme d'une crêpe. Au contraire, on a oméga z carré, le long de la z, et plus grand qu'oméga perpendiculaire. On a une forme d'un disque aplati, et on a oméga z carré égale 8 oméga perpendiculaire carré. Alors, si on remplace oméga z carré par 8 oméga perpendiculaire carré là-dedans, on trouve que oméga 2 est donné par 2 fois 7 plus ou moins racine de 29 oméga 0 perpendiculaire, et on trouve à ce moment-là deux racines, avec le signe plus et avec le signe moins, l'une qui est égale à 4,976 oméga perpendiculaire, et l'autre à 1,7797 oméga perpendiculaire. Alors, si vous revenez à ces équations, ici, qui sont exactement les précédentes, ici, j'ai B perpendiculaire plus BZ. Si je prends la plus petite des deux, les deux quantités ici sont du même signe. Et donc, le vecteur propre, delta BZ et delta B perpendiculaire seront deux signes opposés. Si par contre, je prends la grande valeur propre ici, ce terme sera négatif, ce terme sera positif, et delta BZ et delta B perpendiculaire seront de même signe. Alors là, on voit à quoi correspondent les modes. Les modes correspondent à une variation de BX et BY qui sont les mêmes, comme on dit, ça reste circulaire dans le plan radial. Donc c'est un mode de respiration dans le plan radial. Et ou bien BZ a le même signe, c'est-à-dire tous se contractent, delta BZ et delta B perpendiculaire ont le même signe, ou bien delta BZ et delta B perpendiculaire n'ont pas le même signe, c'est-à-dire que quand ça se contracte de l'onde dans le plan radial, ça augmente de l'onde de la Z et réciproquement. Et on comprend bien que ce mode, le mode où tout se comprime, est une fréquence propre de vibration plus élevée que l'autre, parce que ça correspond à une compression réellement du condensat. Alors, comparons donc ces prédictions aux prédictions théoriques, aux résultats expérimentaux. Donc, les quelques transparents suivants représentent les résultats expérimentaux du groupe de Cornell et Weyman. Bon, ici, c'est tout simplement... Pour réaliser il module les champs du top de manière soit à comprimer de manière symétrique le condensat, soit à le faire tourner, il revient à faire le mode quadripolaire. Et voilà un exemple de résultat. Ici, on mesure le rapport d'anisotropie du condensat après expansion balistique. Les ronds sont les radiales et les triangles sont axiales. Et on voit clairement sur cette figure que c'est le mode où B perpendiculaire et delta B perpendiculaire à delta BZ ont des signes opposés. Hein, puisque vous voyez que les deux oscillations sont pratiquement en opposition de phase. Elles ne sont pas tout à fait en opposition de phase et ça c'est lié aux corrections qui sont introduites par la phase d'expansion libre, mais dont on peut tenir compte quantitativement. Le plus intéressant, c'est la figure suivante, qui donne un petit peu l'évolution de la fréquence des modes. En fonction d'un paramètre qui est n racine de nu r. Alors, racine de nu r, c'est ce qu'on appelle, nous, c'est oméga 0. Donc, c'est n racine de oméga. Et en fait, ceci, c'est NA sur sigma, puisque, à un coefficient multiplicatif près, puisque sigma, c'est racine de H bar sur M oméga, donc N sur racine de H bar sur M oméga, c'est N racine d'oméga. Donc, qu'on fait varier ce paramètre, A étant constant, bien sûr, la longueur de diffusion, qu'on fait varier, c'est la densité initiale du piège. Et les points sont les points expérimentaux, pour deux modes. Le mode qui est plus bas ici, c'est le mode où Z ne change pas, et où delta BX et delta BY sont le signe opposé, c'est-à-dire c'est le mode quadripolaire, M égale 2. Donc c'est un mode où il y a uniquement une variation de la densité dans un plan radial sans variation le long de l'axe Z. Et l'autre, c'est un mode où delta BX et delta BY sont égaux, et où le signe opposé est delta BZ. Donc les deux modes sont des modes M égale 0 ou M égale 2, m égale 2, m égale 0, et ils correspondent tous les deux à une excitation de deux quantum quand on n'a pas de, du tout d'interaction, quand on a un condensat libre, c'est-à-dire qu'ils doivent partir de une fréquence de vibration qui est égale à deux fois la fréquence de vibration d'un oscillateur harmonique, dans le plan perpendiculaire, 2 alpha oméga, puisqu'on excite ici le mouvement perpendiculaire. Les courbes en très plein ici sont les résolutions numériques des équations ici de grosse vitesse linéarisées. Et les droites en pointillés, ici, représentent les limites analytiques calculées à la limite des grandes densités. Là, c'est le racine de 2, que vous avez calculé tout à l'heure, 1,4. Et là, c'est le 1,797. C'est les deux valeurs propres que j'avais calculé donc à partir des équations différentielles à forte densité. Et vous voyez donc qu'on a ici une compréhension très satisfaisante de l'évolution des fréquences propres du condensat dans le cas d'un piège TOF. Là encore, ça peut être considéré comme une vérification précise de l'équation de Brønsky-Tejstrup. Autre expérience qui a été réalisée, c'est une expérience qui a été réalisée à MIT. Alors, sur un SIGA extrêmement allongé, où ils utilisent un piège stable, ils utilisent un piège de Yoffe, Richard, et à ce moment-là, il faut revenir à cette équation, et on a toujours le mode racine de 2, hein, mais on a ici, qu'on prend la racine, il y en a oméga z très petit devant oméga perpendiculaire, et qu'on cherche la racine avec le signe moins ici, qui est la plus petite, qu'on fait un développement en puissance de oméga z sur oméga perpendiculaire. Le terme essentiel ici va se simplifier avec celui-là. La racine de 16 va me donner un 4 oméga 2 qui va s'en aller, 4 oméga perpendiculaire qui va s'en aller avec celui-là. Et le suivant qui reste, on va trouver que c'est oméga 2 égale 5/2 de oméga 0 oméga z carré. On trouve donc un mode de vibration le long de la sauce z dont la fréquence va être oméga égale racine de 5/2 de oméga perpendiculaire. Et ceci, ceci a été très bien vérifié par l'expérience de MIT. Je donne quelques figures ici. Donc, la référence 17. Ici, ce sont des images destructives montrant la variation du rapport d'anisotropie du condensat en fonction du temps, après une phase d'expansion balistique. Mais les mêmes auteurs ont réussi quelques années après à faire des mesures non destructives par des techniques dispersives, et où à ce moment-là, ils peuvent prendre une... Je sais, la qualité de l'image n'est pas excellente, mais on voit quand même très clairement sur cette image, donc qui est pris sur le même condensat qui oscille au cours du temps et dont on prend des photos à des intervalles de temps égaux, on voit très bien d'abord que le centre du condensat oscille. Ça, c'est parce qu'on a excité un mode particulier, un particulier qui est le mode de vibration du centre de masse. En effet, si on a des particules piégées et qu'on déplace le centre de masse, on peut montrer aisément voilà, que le centre de masse obéit à l'équation d'évolution d'une particule libre dans un piège harmonique, et donc il oscille librement, sans amortissement. Et on voit ici, on voit le mode de vibration donc du centre de masse. Et puis, en plus de cela, on voit que le condensat respire le long de l'axe z, et ça, ça correspond au mode que je disais tout à l'heure, où delta bx et delta by sont égaux, et le signe opposé à delta bz. Ici, on ne voit pas bien les variations de delta bx et delta by, parce que le condensat est beaucoup plus petit, et c'est en dessous du pouvoir de résolution des états de pi. Et donc, en mesurant cette fréquence de vibration du condensat, on trouve exactement le racine de 5/2 de oméga z. Pour donner une idée du rapport oscillation-bruit, cette figure-là, qui donne donc la fréquence, la variation temporelle du rapport d'anisotropie. Bien, alors maintenant, je voudrais terminer donc cette partie-là en revenant à cette équation. Et il m'a semblé intéressant de vous présenter un exemple de calcul exact qu'on peut faire par cette équation, un calcul analytique, et trouver les valeurs propres de cette équation dans le cas d'un piège isotrope. Ça a été fait par Stringari. Et je trouve que c'est un bel exemple qui rappelle beaucoup ce qu'on fait en mécanique quantique pour trouver les valeurs propres de l'équation de Coulomb pour un atome d'hydrogène. Donc, c'est un très bel exercice en fait, qu'on pourrait donner dans un certificat de C3 de mécanique quantique, parce que c'est la recherche des valeurs propres d'une équation dérivée partielle avec des conditions limites. Donc, je le fais très rapidement, c'est pas très compliqué. Donc, je repars de l'équation que j'ai écrite ici. Équation hydrodynamique linéarisée, c'est-à-dire valable à haute densité et à faible excitation. Là, voilà, elle est écrite ici. Et je recherche les fréquences oméga de notre probe de vibration, c'est-à-dire que je remplace delta rho par e puissance moins 2 oméga t. Et ça me donne l'équation suivante, oméga 2 delta rho égale moins j sur m, divergence de rho 0 gradient de delta rho. Alors, cette équation peut être résolue exactement si on prend un piège isotrope. Si je prends un piège isotrope, rho 0 de r, d'après l'approximation de Thomas Fermi, c'est 1 sur g mu moins 1 demi de m oméga 0 de r2, quand rho est positif, rho 0 est positif, et 0 partout ailleurs. Donc c'est un condensat qui va être confiné dans une sphère de rayon grand R, où grand R est donné par g sur mu égale 1 demi de m oméga 0 de r2. Et cette équation, explication-là, rho 0 de r égale 1 demi de m oméga 0 de grand R2 moins petit r2. Et si je reporte ceci là-dedans, et si je simplifie par les n, j'obtiens une équation qui est oméga 0 2 sur oméga 2 sur oméga 0 2 delta rho égale moins 1 demi de R2 divergence de 1 moins petit R2 sur grand R2 gradient de delta rho. Donc ça c'est une équation dérivée partielle du deuxième ordre et elle est linéaire et on peut chercher pour quelle valeur de oméga elle admet des solutions physiques, c'est-à-dire des solutions qui ne divergent pas. C'est-à-dire qu'on est ramené à un problème d'équation en valeur propre. Alors, comment procède-t-on? On change de variable, d'abord. On pose une quantité sans dimension. Sphérique. Je sais que je peux trouver des solutions de la forme. Je peux séparer les variables angulaires et les variables radiales. Et je peux chercher des solutions de la forme delta rho de R égale YLM de θ phi, harmonique sphérique, que multiplie une certaine fonction de la variable radiale, RL de nu, qui dépend de L. Et si je reporte ceci dans cette équation, et l'équation dérivée partielle se simplifie parce que la dépendance angulaire s'en va avec l'harmonique sphérique, et j'obtiens une équation différentielle du deuxième ordre pour la fonction radiale RL de U, qui est 1 moins U2 D2 sur DU2 de RL de U, plus 2 sur U moins 4U D sur DU de RL de U, plus 2 oméga 2 moins une certaine fonction RL de U égale 0. Et il faut trouver donc une solution à cette équation différentielle. Alors ce qu'on fait d'habitude, ce qu'on fait également pour l'atome d'hydrogène, on cherche une solution sous forme d'un développement en série, en puissance de U, qui part de U puissance F. Il est facile de voir que cette équation relie chaque puissance de U à la puissance plus ou moins 2. En effet, la dérivée seconde ici, ça fait changer u de 2 unités. Ici, il y a 1 sur u2, ça change de u de 2 unités. Et puis, u qui multiplie la dérivée, ça ne change rien, mais 1 sur u qui multiplie la dérivée, ça change u de moins 2. Donc, on cherche une solution de la forme. RL de u égale u à la puissance s, facteur de 1 plus a2 u2 plus a2n u de n plus etc. Et on reprend ce développement dans cette équation. Alors, comme j'ai une dérivée seconde ici, et que j'ai 1 sur u2 ici, je vais avoir un terme en us moins 2. Il faut que j'annule le coefficient, et quand j'annule le coefficient du terme en us-2, on obtient l'équation ss-1 plus 2s moins ll plus 1 égale 0, c'est-à-dire ss plus 1 moins ll plus 1 égale 0, deux solutions, s égale l, s égale moins l plus 1, et cette solution est à rejeter parce qu'elle me conduirait à une fonction radiale qui diverge en u égale 0. Donc je ne garde que s égale l, exactement comme pour l'atome d'hydrogène. Donc s est égal à l, je reviens dans un autre développement. On cherche donc la fonction radiale sous la forme RL de U égale U puissance L plus A2 UL plus 2 plus A2N UL plus 2N, etc. On reporte ça dans l'équation différentielle. Le terme d'ordre le plus bas est automatiquement satisfait, coefficient nu avec le choix S égale L. Et pour annuler, il faut annuler tous les termes tous les coefficients hein, de tous les termes successifs, l'annulation du coefficient du terme en u à la puissance l plus 2n me donne une relation de récurrence qui relie a2n plus 2 à a2n, que j'ai écrite ici. Ce qui est intéressant, c'est que si je prends a2n plus 2 sur a2n, le terme prépondérant ici c'est 4n2, au numérateur, le terme prépondérant ici c'est 4n2, donc le rapport de deux coefficients successifs de la série tend vers 1 quand même tend vers l'infini. À ce moment-là, si je prends la série RL de U pour U égale 1, c'est-à-dire au bord du condensat, petit R égale grand R, j'ai une série, donc qui est une série où tous les termes sont U à la puissance, pardon. Tous les termes, quand U égale 1 vont être égal à 1, vont être égaux à 1, et comme tous les coefficients sont du même ordre, la série ne décroît pas et la série diverge. Donc, dans le cas général, la série va diverger en U égale 1, c'est-à-dire en petit R égale grand R, elle n'est donc pas acceptable. La seule manière d'éviter une telle catastrophe, c'est qu'il ne faut pas que j'ai une série infinie. Il faut que cette série s'arrête à un certain niveau et qu'au lieu d'une série, j'ai un polynôme de degré L plus 2L. Alors, si j'ai une situation de ce type, il faut que A2N plus 2 soit nul, il faut donc que ce coefficient soit nul, et j'obtiens une équation algébrique, L plus 2L, L plus 2L moins 1, plus 4L plus 2L moins 2 oméga 2 moins L plus 1 égale 0, c'est-à-dire oméga 2 qui est oméga 2 sur oméga 0 2 égale 2N2 plus 2NL plus 3N plus L. Donc ça c'est très joli, on voit donc qu'on peut obtenir une formule analytique pour les fréquences de vibration d'un condensat sphérique à haute densité. Et on a une équation algébrique. C'est un des exemples de cas solubles comme les atomes d'hydrogène, le sulfate harmonique, il n'y en a pas tellement, donc c'est pour ça que j'ai pensé que c'était intéressant. J'ai refait dans les articles originaux, il n'y a pas ces démonstrations, mais j'ai prouvé le besoin de les refaire et de vous les montrer. Alors, à quoi faut-il comparer ce résultat? Il faut comparer ce résultat à ce qui se passe en l'absence d'interaction. Alors, en l'absence d'interaction, comment varie la densité dans un condensat? D'abord, pour des faibles excitations, la fonction d'onde du condensat va être une superposition de l'état fondamental de l'oscillateur, isotrope, phi 0 de R, plus une superposition linéaire, avec des coefficients de phi nx nyz nz de R et puissance moins i nx plus ny plus nz oméga t, puisque l'énergie d'un état nx nyz nz, c'est nx plus ny z alpha oméga en prenant l'énergie de l'état fondamental comme zéro d'énergie. Je vais la vous garer ici pour avoir la densité et je vois apparaître toutes les fréquences de bord possibles qui sont nx plus ny plus nz oméga. Donc, un condensat sans interaction, c'est fréquence propre, c'est un nombre entier de fois oméga. Nx plus ny plus nz. D'ailleurs, ce nx plus ny plus nz, on peut le réexprimer en fonction du nombre quantique radial nr et de l sous la forme nx plus ny plus nz, c'est 2nr plus l à voir oméga. Et vous voyez que cette fréquence propre est complètement différente de celle-là. Et ceci, bien sûr, n'est valable. Cette méthode que je viens de donner ici permet de calculer tous les modes propres de vibration. Alors que la méthode des équations différentielles ne calculait que les équations qui pouvaient, les modes qui pouvaient être excités par une variation de oméga x de t, oméga y de t, oméga z de t. Bien sûr, on peut calculer aussi les autres en ajoutant un terme source qui les excite. Mais celle-ci les donne tout entière. Mais je rappelle quand même, attention, on ne peut pas utiliser la théorie de l'hydrodynamique linéarisée, on ne peut pas utiliser si on a des longueurs d'onde de vibration de mode qui sont plus grands que la longueur de cohérence. Parce qu'à ce moment-là, on ne peut plus négliger le terme de pression quantique dans l'équation équivalente à l'équation de Gross-Pitaïsky dépendant du temps. Autrement dit, cette équation hydrodynamique que j'ai ici n'est valable que pour les premiers modes de vibration. Elle n'est pas valable pour les modes de N très très grands. Alors, dans l'article de revue de Stringari, vous verrez également, du groupe de Stringari, vous verrez également des considérations sur la résolution de l'équation de l'hydrodynamique linéarisée qui est ici, dans d'autres géométries. Et en particulier, il y a une géométrie qui est intéressante, qui est la géométrie où on a un condensat extrêmement allongé le long d'axe Z, tellement allongé qu'on peut le considérer comme un cylindre. D'accord ? On a donc un condensat très très allongé. Et on peut se poser la question suivante, dans le plan radial de ce cylindre, qui a un rayon R, la densité parabolique, d'après l'approximation de Thomas Fermi, et la densité du condensat n'est pas uniforme dans un plan perpendiculaire. Alors ça, c'est un petit calcul qu'on peut faire très simplement. Si on prend une parabole, on prend la densité moyenne, moyennée dans un plan, et on trouve que la densité moyenne est égale à rho bas, est égale à rho 0 sur 2, ou rho 0, la densité maximale le long de l'axe. D'accord ? Et alors, on peut chercher les modes propres de propagation de cette équation, donc dans un milieu infini, et il est clair que si on prend des ondes qui se propagent le long de la chaîne, dont c'est mieux à une dimension, elles peuvent être considérées comme des ondes à une dimension si la longueur d'onde le long de la chaîne est grande devant le rayon du condensage dans la direction petite. D'accord ? À ce moment-là, on peut considérer qu'on a une onde à une dimension. Et le calcul montre, et ça, il y a deux références qui sont, je crois, les deux dernières références que je donne. Non, pas les deux, les références 13 et 14, à l'article de Zaramba et de Stringari de 1998, c'est des articles très récents, on montre à ce moment-là qu'on a la propagation des ondes sonores le long de l'axe Z, avec une vitesse de propagation qui est racine de G rho bar sur M. Et comme rho bar c'est rho 0 sur 2, c'est G rho de 0 sur 2M. Si vous vous reportez au cours sur la théorie de Bogodubov, dans un milieu homogène, vous rappelez que les ondes sonores qui se propagent dans un condensat homogène ont, quand la longueur d'onde est plus grande que la longueur de relaxation ou encore la longueur de cohérence, ont une vitesse racine de 0 sur S. Donc on retrouve le résultat de la théorie de Bogodubov à condition de remplacer rho, la densité dans un milieu homogène, par rho bar, la moyenne de la densité dans un plan perpendiculaire à l'axe du cylindre. Donc, là encore, cette équation donc, de l'hydrodynamique linéarisée permet de calculer la propagation de ces ondes sonores. Elle permet même de faire mieux qu'on a un condensat de dimension finie qui n'est pas infini de long de l'axe Z. On sait très bien à ce moment-là qu'il y a des modes discrets au début, correspondant à des longueurs d'onde de l'ordre de la dimension du condensat le long de l'axe Z, et puis des modes excités. Et on voit passer progressivement les modes discrets avec des longueurs d'onde de l'ordre de la dimension du condensat. Quand la longueur d'onde diminue, on voit apparaître donc des propagations, une relation de dispersion donnant la propagation des vitesses d'onde sonore. Ça, c'est fait par la référence dans Stringer. Alors, ceci a été testé expérimentalement par le groupe de MIT. Et je voudrais terminer là-dessus. L'idée la suivante. On part d'un condensat extrêmement allongé le long de l'axe Z. Et puis brusquement, on introduit une perturbation créée par un faisceau laser focalisé, désaccordé vers le bleu, qui introduit une barrière de potentiel répulsif en Z égale 0. Autrement dit, brusquement, à l'instant, le condensat est en équilibre, ça c'est l'axe Z, brusquement, on rentre, donc une sorte de. On pousse le condensat en Z égale 0 avec un faisceau laser qui crée donc une variation de densité en ce point, parce que le condensat est bougé dans cette direction, et cette perturbation ensuite, elle va se propager sous forme de deux propagations qui vont aller à droite et à gauche. On peut aussi laisser d'abord le condensat en présence du faisceau laser, le condensat atteint un état d'équilibre, si la densité est comme ça partout, et puis brusquement on enlève le faisceau laser, donc ça fait un creux donc dans la densité, et ce creux va se composer de côté. Donc on peut créer une perturbation localisée sur un condensat allongé de l'axe Z, et puis regarder ce qui se passe quand on introduit brusquement cette perturbation qu'on a fixée. Et on voit là des images du condensat à des instants successifs. Et vous voyez très clairement qu'on voit les perturbations qu'on a introduites de part et d'autre, on les voit se propager et on peut les suivre et mesurer ainsi la vitesse de propagation. Et la dernière figure montre la vitesse du son, donc dans ces condensats, en millimètres par seconde, en fonction de la densité, en diffusion de 14 par cm3. Et ça, c'est la courbe G racine de rho bar sur M. Et les points sont les points expérimentaux. Vous voyez que ça marche bien à haute densité, et puis ici, ça marche moins bien. Et c'est vrai, les auteurs expliquent ça par le. D'abord, ça s'est publié dans un Erasmus, parce que dans la première publication, ils n'avaient pas réalisé le facteur 2, ils avaient pris G rho de 0 sur M, alors que c'est en fait G rho de 0 sur 2N. Et qu'on prend ça, ça marche moins bien avec les résultats expérimentaux. Bon. Mais ils interprètent ce désaccord ici comme étant dû au fait que pour faire varier la densité, ils changent de rapport d'anisotropie. À ce moment-là, ils sont dans des conditions où le résultat de la théorie valable pour un cylindre infini n'est plus très bon. Pour obtenir les faibles densités, donc le rapport d'anisotropie est moins grand qu'ici, et donc les conditions d'applicabilité de la théorie sont moins bonnes. Donc j'espère vous avoir convaincu avec ces quelques séries d'expériences qui sont tout à fait impressionnantes. Expansion balistique, vibration du condensat, propagation du champ, qu'à 0 degré, donc à très basse température, l'équation de Gross-Pitalski dépendant du temps donne une interprétation très satisfaisante de ce qui se passe. Alors, je voudrais... J'hésite un peu à faire ça parce que je ne voudrais pas vous semer le trouble, mais je pense que c'est également important de voir les difficultés de la théorie. Certains d'entre vous, en particulier Jean-Dalibard, Yvan Cartin et d'autres, m'ont fait remarquer que dans la dérivation de l'équation de Gross-Pitaïsky, dépendant du temps que j'ai donné la semaine dernière, je reprends deux transparents de la semaine dernière. Vous vous rappelez, je suis parti d'une fonction de C. J'ai d'abord montré que l'équation de Schrödinger pouvait être dérivée d'un principe de moindre action. Et puis, au lieu de faire varier phi dans tout l'espace, je l'ai fait varier dans l'espace des fonctions produites, qui est donné ici, calculé S. Et puis, en annulant le coefficient de delta phi étoile, on a obtenu cette équation. Alors, jusqu'à présent, je n'ai fait aucune hypothèse sur V. Alors ici, ce que j'aurais dû faire, comme je l'avais fait dans les fois précédentes, c'est de dire, à ce moment-là, je remplace V de R moins R' par le pseudo-potentiel, V pseudo, et comme la quantité sur laquelle agit V pseudo n'a aucune singularité en R moins R', je sais que j'obtiens les mêmes résultats en remplaçant V pseudo par G delta de R moins R'. Et si je remplace ça par G delta de R moins R', je tombe sur l'équation de Gross-Pitaïsky dépendant du temps. Il m'avait paru plus simple la semaine dernière, dire bon, j'ai ici somme de D3R', V de R moins R', phi de R' et de T au carré. V de R moins R', c'est un potentiel qui est localisé, qui varie très vite avec R moins R'. La fonction du condensage est quelque chose de beaucoup plus mou. Donc je peux remplacer R' par R ici, le sortir de l'intégrale, et faire apparaître somme de V de R moins R'. Et c'est ce que j'ai fait dans le transparent suivant. Exactement le transparent de la semaine dernière. Et j'ai appelé ça G. Alors ici, il y a une sacrée difficulté, parce que si le potentiel V peut être traité par l'approximation de bande, je sais bien que à l'approximation de bande, la longueur de diffusion est à 4 pi h bar 2 sur m près donnée par l'intégrale du potentiel. Donc le G que j'ai ici, c'est bien le 4 pi h bar 2 a sur m. Mais si V ne peut pas être traité par l'approximation de bande, l'intégrale de V n'a aucune raison d'être liée à la longueur de diffusion. En particulier, si je reviens au problème d'un puits de potentiel, un puits de potentiel, comme ceci, carré, l'intégrale de V est négative. Or, j'ai bien vu, en calculant la longueur de diffusion dans un tel puits de potentiel, qu'il y avait des endroits où elle était positive, et des endroits où elle était négative. Donc l'intégrale du potentiel n'a aucune raison, quand le potentiel ne peut pas être traité par l'approximation de bande, il n'y a aucune raison que ce soit la longueur de diffusion. Et là, c'est embêtant, parce que si je prends un potentiel comme ça attractif, en créneau, je vais trouver ici quelque chose de négatif, et je sais que le condensat n'est pas stable, donc l'équation que j'écris ici n'a aucun sens. Ça montre clairement, je crois, j'ai pas encore la réponse précise à cette question, mais je crois que ça montre clairement que utiliser une méthode variationnelle, il faut faire attention. Quand on choisit une famille variationnelle, il faut l'adapter au problème qu'on étudie. Si on prend la mauvaise famille variationnelle, la méthode variationnelle peut donner un résultat absolument quelconque. Si j'ai un potentiel qui ne peut pas être traité par bande, où il y a donc des corrélations à faible distance, l'utilisation de la méthode variationnelle peut m'emmener très loin de la solution exacte, ou de la solution. D'accord ? Par contre, si c'est traitable par l'approximation de bande, parce que là je sais que les corrélations entre les particules sont faibles, la fonction d'onde d'ordre 1 est très peu différente de la fonction d'ordre 0, et à ce moment-là, c'est une bonne approximation de prendre une fonction d'onde produite. Autrement dit, la philosophie de ceci, c'est que quand le milieu est dilué, ce qui est le cas de tous les condensats étudiés actuellement, où la distance moyenne entre particules est grande devant la portée du potentiel devant la longueur de diffusion, ce qui se passe au voisinage du potentiel est moins important que ce qui se passe à l'extérieur. Et si je prends un autre potentiel qui a la même longueur de diffusion, j'obtiens les mêmes résultats. Ça décrit le comportement asymptotique de la fonction d'onde de manière correcte, à ce moment-là, ça marche. Et pour que je puisse appliquer une théorie des variations, il faut que je prenne donc un potentiel qui non seulement a la même longueur de diffusion, mais qui satisfasse aussi à l'approximation de bande, c'est-à-dire pour lequel le choix d'une famille variationnelle donne un bon résultat. Donc, je crois que cette démonstration que j'ai donnée la dernière fois n'est pas correcte. Il faut revenir au transparent précédent. Et dire, j'arrive à ce stade-là, pour pouvoir utiliser de manière sérieuse, pour que ce choix de fonction d'essai me donne quelque chose de correct, il faut que V soit traité par l'approximation de Born, ce n'est pas le cas du vrai potentiel. Je le remplace par un potentiel qui a la même longueur de diffusion, qui me donne donc le même comportement asymptotique des fonctions d'onde, et qui me donne les mêmes corrections d'énergie, mais qui peut être traité par l'approximation de Born. Or, je vous ai montré que le potentiel, le pseudo-potentiel, était traité par l'approximation de Born, et à ce moment-là, je remplace ça par le pseudo-potentiel, par suite par G delta de R moins A prime, parce qu'il n'y a aucune singularité en R égale R prime, et je retrouve bien le G qui est 4 pi h bar 2 sur M fois la longueur de diffusion. Ceci n'est pas fini, parce qu'il faudrait comprendre pourquoi, quand V ne satisfait pas l'approximation de Born, où c'est que m'amène le choix de cette fonction variationnelle, quelle est la solution que ça me permet d'obtenir. Donc ça, c'est un problème sur lequel je n'ai pas encore des idées claires. J'espère y réfléchir et peut-être vous donner l'année prochaine un éclairage plus précis. Donc j'en ai fini avec le programme que je m'étais fixé cette année. Il reste encore beaucoup de choses à faire, bien sûr. Il y a tous les aspects qui sont liés à la cohérence des fonds dans ça. Comment elle se manifeste dans les collisions à deux corps, à trois corps. Comment elle se manifeste dans les espaces d'interférence en fond dans ça. Il y a tous les problèmes de vortex que j'ai évoqués au début du cours, de cette fois-ci. Il y a également tous les problèmes de quelle est la contribution des particules qui ne sont pas condensées, quelle est l'influence des collisions que ces particules subissent avec les particules condensées. Il y a donc toute une série de problèmes qui sont encore à traiter, que je n'ai pas eu le temps de traiter cette année. J'ai préféré faire un cours détaillé et vraiment complet sur les problèmes que j'ai traités. Et je vous donc vous remercie donc de votre fidélité. Et avant de terminer, l'un d'entre vous, un des auditeurs m'a demandé de mentionner les laboratoires sur lesquels des expériences de ce type se poursuivaient. En France, à Paris, il y a notre groupe à l'École Normale, il y a le groupe d'Alain Speck, ces deux groupes ont déjà des condensats. Il y a beaucoup d'autres groupes en France qui travaillent sur les atomes froids, à Aimé-Coton, également sur les molécules froides, à Lille, il y a un groupe qui travaille sur les atomes froids, à Nice maintenant avec Robin Kaiser et Christian Miniatura. Je crois qu'à Toulouse, il y a également le groupe de Jacques Liguet qui travaille sur les condensats. Alors ça, c'est ce qui se passe dans le territoire français. En Europe, il y a énormément de groupes. Maintenant, il y a Constance, à Garching, je pense aussi dans d'autres villes d'Allemagne, en Angleterre, en Italie, à Florence. Il y a toute une série d'équipes qui travaillent sur les atomes froids en général et qui essayent d'obtenir des condensations, ou qui en ont déjà obtenu, comme c'est le cas à Constance, à Munich. Bien sûr, aux États-Unis, toutes les équipes de Cornell, de Weiman à Gila, de Keckerle à MIT, de Heinzen dans le Texas, de Bill Phillips à Gettysburg, toute une série d'équipes. Je pense que la meilleure manière d'avoir des informations, c'est de regarder sur les pages web de ces laboratoires où il y a des indications particulières, des possibilités de postdoc. Ce même auditeur m'a demandé aussi d'indiquer s'il y avait des industriels qui étaient intéressés par ces problèmes. Je ne crois pas que pour l'instant, les industriels s'intéressent au condensat Bose-Einstein, peut-être dans un avenir proche. En tout cas, il y a déjà beaucoup de groupes.
Thomson s'est intéressé, mais il y a actuellement des restructurations à Thomson qui font disparaître une partie de la recherche de base.
De la recherche de base, malheureusement, oui. Il y a quand même un autre domaine de recherche concernant les atomes froids qui intéresse plus les industriels, je pense que c'est la lithographie atomique, où on essaie de déposer avec des ondes de Bose des structures de l'ordre de quelques nanomètres sur des substrats pour faire des micro-circuits électroniques. Voilà un petit peu les informations que je pouvais vous donner en réponse à cet auditeur. Donc je m'arrête aujourd'hui, vous avez le séminaire de Martial Dutreux tout à l'heure, et je voulais encore vous remercier de votre fidélité.